Vous écoutez, on lit pour vous.
Traite de personnes, chaque autochtone, ellipse, dans ce pays a une histoire à raconter. Un texte de Marie-Laure Josselin, paru le 12 décembre 2024 dans Espaces autochtones. La traite des êtres humains est un problème réel et terrifiant, auquel font face de nombreuses communautés autochtones, même s'il est parfois difficile de le nommer. Selon l'ancienne chef de Wicocmac en Nouvelle-Écosse, citation, « C'est une épidémie nationale. Nous avons un problème réel. » Fin de citation, a lancé sans détour Annie Bernard Desly. À tel point que, citation, « Chaque autochtone dans la salle et dans ce pays a une histoire à raconter sur le sujet. » Fin de citation, a-t-elle expliqué à une salle remplie de chefs et de représentants autochtones réunis à Ottawa lors de la dernière rencontre des chefs de l'Assemblée des Premières Nations. Chaque année au Canada, la police traite environ 400 dossiers de trafic de personnes à des fins sexuelles, un nombre qui a été multiplié par 5 depuis 10 ans et qui est encore grandement sous-estimé, selon plusieurs observateurs, notamment parce que la moitié des femmes qui en sont victimes sont autochtones. La Nouvelle-Écosse a le taux le plus élevé au pays d'incidents liés au trafic de personnes. On y recense 4,5 incidents pour 100 000 habitants, tandis que la moyenne nationale est de 1,4 incidents pour 100 000 habitants. Un centre d'accueil pour femmes autochtones de Sydney, le Jane Paul Mi'kmaq Women's Resource Center, a vu les demandes d'aide pour des cas de traite de personnes quadruplées durant la pandémie, a cité en guise d'exemple Mme Bernard Desly lors de son allocution. Cette dernière a entendu, citation, « d'innombrables histoires de femmes qui se sont battues pour leur vie après avoir été ligotées et traînées dans des fossés ». Fin de citation, mais ces récits ne se rendent pas assez souvent aux oreilles de ceux qui dirigent la lutte contre la traite d'êtres humains. Il est donc nécessaire, selon elle, d'adopter une approche menée par les Autochtones. Citation, « Puisque nous sommes touchés de manière disproportionnée, nous devons être aux commandes. Nous devons faire entendre notre voix, raconter nos histoires. » Fin de citation, a-t-elle dit. Une marchandise. Le sujet ne doit pas être discuté qu'entre chefs, mais aussi dans les communautés, estime Marsha Wolf-Coller, conseillère de la nation Siksika en Alberta. C'est le moment d'avoir ce dialogue, a-t-elle expliqué en entrevue. Car les femmes et les enfants autochtones sont une marchandise au Canada, et c'est un problème auquel il faut réfléchir. Pour cela, il faut reconnaître que la traite des êtres humains existe parce qu'il y a aussi une clientèle et que, citation, cela va bien au-delà de la traite. C'est en grande partie au fait que nous manquons de refuges et d'espaces sûrs pour les femmes autochtones et non autochtones. Fin de citation. Cet élément est le premier avancé par le chef E.J. Fontaine de la Première Nation Sagkeyeng au Manitoba, interrogé sur le sujet. Sa communauté compte le taux le plus élevé de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées parmi les Premières Nations du Canada, selon la ministre des Familles du Manitoba, Naani Fontaine, elle-même originaire de cette Première Nation. La mort de Tina Fontaine, une adolescente qui venait de cette communauté, avait secoué la population et soulevé des questions sur le sort réservé aux femmes autochtones qui disparaissent. Elle avait également jeté les bases de la discussion nationale sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ENFADA. Ce haut taux a un impact énorme, a souligné le chef E.J. Fontaine. Récemment, la communauté a déposé une demande pour la création d'un refuge pour femmes afin de les protéger. Mais Ottawa a refusé, ce qui l'a déçu et choqué, a-t-il précisé. Citation, « Je reçois constamment des demandes de sécurité de la part de femmes et je n'ai pas vraiment d'autre endroit pour les héberger qu'une chambre d'hôtel. Si je n'ai pas de financement, elles descendent dans la rue, cherchant la sécurité au mauvais endroit et finissent par devenir très vulnérables. » Fin de citation, a-t-il raconté. Souvent, quand il conduit tard le soir à Winnipeg, qui se trouve à 130 km au sud de sa communauté, il voit beaucoup de femmes autochtones dans la rue sans nulle part où aller. Citation, « Le problème réside là. Elle se met en danger en s'adressant parfois aux mauvaises personnes pour avoir chaleur et sécurité. Fin de citation. Les expériences des autres communautés relatées à l'APN, ainsi que les solutions proposées, comme la sensibilisation aux dangers de la ville, ont nourri ces réflexions. Comprendre le langage de la traite. Il n'y a pas de réponse unique pour combattre ce fléau, a expliqué Teddy Masikae Maniwounds, directeur de la justice et de la sécurité publique du conseil tribal G-Force Tony Nakoda Tsutina et membre de la commission de police de la nation Tsutina en Alberta. Ce trafic ne connaît ni les frontières, ni les différences socio-économiques, ni les origines. Le fardeau de cette expérience traumatisante doit être porté de manière plus collective afin de mieux lutter contre le problème. Lors d'une rencontre récente sur le sujet à Ganawagé, au Québec, Teddy Maniwounds a demandé à un aîné s'il y avait de la traite d'êtres humains dans la communauté Mohawk, ce à quoi ce dernier a répondu par la négative. Mais, selon Teddy Maniwounds, ce genre de réponse vient d'une méconnaissance du phénomène et de ses facettes. Citation. C'est parce qu'ils ne parlent pas le langage de la traite des êtres humains. Fin de citation, croit-il. Souvent, précise-t-il, les personnes ne vont pas reconnaître qu'elles en ont été victimes. Citation. Elles vont dire « j'ai été utilisée, j'ai été agressée sexuellement ». Avec le langage, on peut comprendre que cela fait partie du trafic. Fin de citation, a indiqué Teddy Maniwounds, relatant des expériences passées d'amis qui travaillaient dans l'industrie du sexe. Or, comme il est sensibilisé au problème, il a compris qu'il s'agissait de la traite de personnes. Citation. C'est important que l'on soit au premier rang du lexique de la conversation pour que nous puissions comprendre le langage parlé et la façon dont il est écrit. Fin de citation, a affirmé Teddy Maniwounds. La traite est une expérience humaine très volatile et traumatisante. Elle ne concerne pas que l'industrie du sexe ou de la drogue et peut prendre différents visages, comme le travail forcé. La barrière de la langue, l'isolement et l'éloignement d'une région, tout comme le manque d'informations sur les droits légaux, exposent encore plus les personnes. Mais elle peut aussi se passer dans les communautés, dans des espaces sécuritaires avec la même langue. Et pourtant, les victimes ne s'en rendent même pas compte. Teddy Maniwounds prend l'exemple de l'acteur américain Nathan Chasing Horse, arrêté dans le Nevada en février 2023. La police de la Première Nation Tsutina a alors travaillé avec les forces de l'ordre de Las Vegas. Connu pour avoir joué dans le film « Danse avec les loups », Nathan Chasing Horse se serait servi de sa réputation de guérisseur traditionnel au sein des communautés autochtones aux États-Unis et au Canada pour profiter de la vulnérabilité de jeunes femmes pendant 20 ans. Il a participé à plusieurs powwows au Canada. Depuis novembre, il a été une nouvelle fois inculpé aux États-Unis. Il fait face à 21 chefs d'accusation, dont certains pour agressions sexuelles de femmes et de jeunes filles autochtones. Au Canada, des documents allèguent aussi qu'il a utilisé sa position et sa notoriété pour gagner la confiance de familles autochtones et de leurs enfants afin de prendre des épouses mineures. Citation. Nous devons également assainir nos espaces et pas seulement pour les gens, a clamé Teddy Maniwounds, car ce sont des endroits curatifs. Nous devons non seulement faire preuve d'audace et de courage, mais aussi dénoncer les pratiques néfastes et malveillantes qui se produisent. Fin de citation. Le conseiller de la nation Siksika, Ruben Breaker, souhaite d'ailleurs que soit soulevée la question des hommes issus des communautés qui sont aussi parmi les perpétrateurs de cette traite. Citation. Quand c'est le cas, nous avons un problème et devons trouver une solution basée sur la communauté. Ce qui signifie que nos hommes doivent guérir. Nous sommes censés être des fournisseurs et des protecteurs, mais nous l'avons perdu. Nos hommes ont donc besoin de beaucoup de guérison pour éviter la violence. Fin de citation. Pas dans ma ville, pas dans ma communauté. Les propos du chanteur country canadien Paul Brandt ont trouvé aussi écho. Visiblement très apprécié des personnes dans la salle qui se sont empressées de prendre une photo avec lui, il a rappelé l'importance de s'unir face à ce crime. Engagé dans la lutte contre la traite des personnes, il a lancé la campagne « Pas dans ma ville » en 2017. En 2020, Paul Brandt a pris la tête du comité pour trouver les meilleurs moyens de lutter contre le trafic d'êtres humains en Alberta. Il n'a pas hésité à affirmer que si rien n'est fait, citation, « le Canada va devenir le bordel du monde et les femmes et les filles autochtones seront les premières victimes ». Fin de citation. Citation, « pas dans ma ville, pas dans ma communauté, pas dans ma nation ». Le trafic des êtres humains est différent selon les communautés, mais c'est toujours le résultat d'une exploitation et de la vulnérabilité. Fin de citation, a lancé le chanteur, invitant tout le monde à travailler ensemble. C'était « Traite de personnes, chaque autochtone, ellipse, dans ce pays, a une histoire à raconter ». Un texte de Marie-Laure Josselin, paru le 12 décembre 2024 dans Espaces autochtones.
L'auto, la poubelle et l'usager vulnérable. Un texte de Virginie Dostie-Toupin, paru le 4 juin 2024 dans La Presse. Virginie Dostie-Toupin, conseillère municipale à Saint-Lambert. Récemment, notre petite ville s'est transformée en un microcosme des défis auxquels plusieurs municipalités font face pour partager la voie publique. De nouvelles suggestions d'aménagement ont mis en lumière une fracture générationnelle significative. Les parents d'enfants d'âge scolaire réclament des infrastructures sécuritaires, tandis que bon nombre de résidents plus âgés s'y opposent. Les arguments contre se révèlent familiers. La perte de stationnement sur rue, le conflit avec les poubelles et la laideur des bollards. Avis aux entrepreneurs, il y a une demande pour de beaux bollards. Nous avons parfois tendance à l'oublier, mais, comme l'a brillamment souligné la mairie de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, la voie publique est justement publique. Cependant, retirer un privilège acquis n'est jamais aisé. Il s'avère d'ailleurs ardu pour les élus qui évoluent dans une démocratie représentative de trancher lorsque l'opinion est ainsi divisée. Certains citoyens tombent dans le piège d'un affrontement de générations stériles en s'exclamant « OK, boomer » ou en traitant les jeunes parents d'hystériques. D'autres font le pari qu'il s'agit d'une incompréhension que nous pouvons peut-être dissiper en parlementant calmement au sein de nos conseils municipaux, de nos communautés virtuelles et réelles, et surtout en famille. Au-delà des enjeux de poubelles et de la visite annuelle qui doit se stationner, pour lesquels des solutions créatives peuvent être trouvées, l'argument de fond invoqué contre l'ajout de trottoirs ou de pistes cyclables repose ailleurs. Il s'érige sur le fait que les personnes plus âgées ont élevé leurs enfants sans avoir besoin de ces aménagements. Leurs petits ont roulé et marché dans ces rues sans heurts, ce qui constituerait la preuve que ces demandes sont des lubies qui dénotent un excès de précaution des jeunes parents. La surprotection et ses conséquences. Certes, la surprotection galopante a sérieusement amputé la liberté de mouvement et l'autonomie des jeunes. Dans les années 1990, la peur irrationnelle de voir nos petits sur une pinte de lait a pris de l'ampleur. Cela a lancé une campagne sans précédent de restriction de la liberté. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que cette surprotection qui a retranché les jeunes dans l'enclos de leur chambre et de leur cour clôturée n'était pas sans conséquence. Leur santé mentale et physique en a pâti. Nous devons désormais briser ce cercle vicieux afin que les enfants se réapproprient la rue pour jouer, mais aussi pour circuler. Or, si les risques d'enlèvement sont surestimés, la peur des accidents qui impliquent des usagers vulnérables est quant à elle tristement fondée. La dynamique qui prévaut dans nos rues ne se compare pas à jadis. Le ratio enfants-voitures s'est inversé. Les routes sont restés identiques, alors que la quantité, la taille et les angles morts des automobiles ont explosé. Sur plusieurs voies publiques, le grand nombre de passages véhiculaires justifie amplement l'aménagement de nouvelles infrastructures pour permettre une mobilité active sans danger. Pour redonner une part de la rue aux enfants, il apparaît clair que nous devrons d'abord convaincre leurs grands-parents que c'est important. Expliquons aux aînés que les rues d'aujourd'hui diffèrent de celles de leur jeunesse. Faisons partager des statistiques et des histoires pour illustrer comment les autos ont pris plus de place et comment cela affecte la sécurité et l'autonomie de leurs descendants. Rassurons-les que nous viendrons les visiter même s'il faut nous stationner un peu plus loin. Et insistons sur le fait que ces aménagements ne s'avèrent pas une mode, un caprice ou une lutte sans merci contre la voiture, mais une nécessité pour le bien-être des jeunes générations. Le partage de la route est une question de concession et de compréhension mutuelle. Vivement une conversation là-dessus lors du repas dominical. C'était « L'auto, la poubelle et l'usager vulnérable », un texte de Virginie Dosti-Toupin, paru le 4 juin 2024 dans la presse.
La politique d'exactitude des prix, un texte de Mégane Foy, paru le 11 janvier 2025 dans la presse. Karine Brochu, une lectrice, nous écrit « Je me suis récemment fait rembourser 2 $ grâce à la politique d'exactitude des prix. Les 4 conserves de saumon rose du Pacifique que j'ai achetées et qui étaient affichées à 3,79 $ chacune, 15,16 $, aurait dû être affiché à 4,29 $, 17,16 $ chacune, puisque la période du rabais était terminée. Mais la politique d'exactitude des prix aurait-elle dû me permettre d'avoir mes conserves gratuites au lieu d'avoir un rabais? Est-ce que les erreurs d'étiquetage d'une période de rabais terminée peuvent se traduire en un remboursement complet d'un produit? Dans ce cas précis, la politique d'exactitude des prix aurait dû vous permettre d'obtenir l'une des conserves gratuitement et les 3 autres au prix le plus bas, donc à 3,79 $ chacune. Explication. Le fameux barème de 10 $. Le prix d'un produit est plus élevé à la caisse que ce qui était affiché dans les rayons, l'article vous sera remis gratuitement si le prix du produit est de 10 $ ou moins. Par contre, s'il y a une erreur sur plusieurs produits identiques dans la même transaction, chaque produit sera vendu au prix annoncé le plus bas et la gratuité s'appliquera sur un seul article, explique Maître Aurélie Gagnon, vulgarisatrice juridique d'Éducaloi. La seule exception, selon l'avocate, est lorsqu'un prix se rapporte à des produits vendus en ensemble. Donc, si le prix affiché est de 5 pour 5 $ et on passe à la caisse et c'est 3 pour 5 $, la politique va s'appliquer sur l'ensemble. Et on va avoir gratuitement les 5 produits parce que l'ensemble est d'une valeur de 10 $ ou moins, précise-t-elle. Et si le prix du produit excède les 10 $, Maître Gagnon explique que c'est plutôt un rabais de 10 $ qui vous sera accordé sur ce produit. Dans le même ordre d'idées, si vous vous en procurez plusieurs, le rabais sera accordé sur un seul d'entre eux et les autres vous seront vendus au prix le plus favorable. Le seuil bientôt rehaussé à 15 $, le 7 mai 2025, le seuil de 10 $ en cas d'erreur de prix sera augmenté à 15 $, rappelle Maître Gagnon. Ce seuil n'avait pas été revu depuis 25 ans. Période du solde sur un produit, attention. Comme c'est le cas dans la situation de Mme Brochu, il arrive que des établissements oublient de retirer l'affichage d'un solde temporaire sur un produit, comme les conserves de saumon. Mais si le commerce avait indiqué clairement la date à laquelle prenait fin le solde sur l'étiquette, vous auriez payé le prix courant des conserves. Si le solde est affiché du 4 au 10 février, on est le 11 février et c'est clairement affiché que le solde se termine le 10 février, la politique ne s'applique pas, souligne Maître Gagnon. Des conditions à remplir. Si Mme Brochu a pu faire appel à la politique d'exactitude des prix dans l'achat de ses conserves, Maître Gagnon rappelle que certaines conditions ne le permettent pas toujours. Ce n'est pas tous les établissements qui sont tenus d'appliquer la politique d'exactitude des prix. Ceux qui préfèrent étiqueter chaque produit individuellement ne sont pas concernés. C'est assez rare maintenant. Les établissements qui n'appliquent pas la politique, mais ça reste au choix de l'établissement, précise-t-elle. S'ils l'appliquent, ils doivent l'afficher près des caisses. Le rabais de 10 $ dans le cas d'une erreur de prix, n'est pas non plus applicable sur tous les produits, comme sur le tabac et certains médicaments. Certains, comme le lait, la bière ou le vin, doivent être vendus à un prix minimal fixé par la loi, et le rabais aurait pour effet de rendre le prix de vente inférieur à ce seuil. La politique n'est pas non plus applicable s'il s'agit d'une erreur d'entrée de produit à la caisse. Par exemple, si le caissier a entré une boîte de nouilles au lieu d'une boîte de biscuits. C'est la même chose si l'étiquette de solde est placée près d'un produit, mais que sa description vise un autre article. Comment recourir à la politique quand on se rend compte d'une erreur de prix? D'abord, on peut aborder le caissier, répond d'emblée Maître Aurélie Gagnon. Mais ce n'est pas tous les caissiers qui sont au courant de la politique, indique-t-elle. C'est un peu un problème qu'on constate en ce moment. On peut ensuite demander à parler au gérant. En cas de désaccord, on peut se plaindre à l'Office de la protection du consommateur. On peut aussi toujours porter plainte à la police, poursuit l'avocate. C'était « La politique d'exactitude des prix », un texte de Mégane Foy, paru le 11 janvier 2025 dans la presse.
Soigner, écrire, transformer la mort en mots. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. Comment faire quand on fait face tous les jours à la maladie et à la souffrance pour ne pas sombrer soi-même ou se désensibiliser complètement? Pour la psychiatre et poète Wanessa Yunsi, l'écriture est une façon de trouver cet équilibre. La littérature, c'est cet espace où je peux être en contact avec mes propres zones de fragilité pour aussi accueillir celles des autres, indique en entrevue l'autrice qui a 5 recueils de poésie et 2 essais littéraires à son actif. Son dernier essai poétique, Soigner, écrire, est paru en novembre 2024 dans le cadre du prix de la revue Études françaises, qui souligne une contribution exceptionnelle à la réflexion sur la littérature et l'écriture de langue française. Parmi ses prédécesseurs, on retrouve des noms comme Marie-Claire Blais et Hélène Dorion. Son livre est publié environ 8 ans après son précédent essai, « Soigner, aimer », qui a été finaliste du prix littéraire du gouverneur général du Canada. À l'époque, elle se voyait comme médecin le jour et poète la nuit. Aujourd'hui, elle constate que ces deux identités s'entremêlent et se nourrissent. Il lui serait toujours impossible d'être psychiatre sans être poète. Ce sont deux métiers qui ont comme fondement la question de la vulnérabilité et la question du langage. En psychiatrie, on n'a pas le choix d'écouter le patient parce qu'on ne peut pas simplement faire une imagerie d'un cerveau et voir si la personne souffre de schizophrénie ou de maladie bipolaire. On doit donc tenir compte du récit du patient, du récit des proches, du récit social et culturel, raconte la médecin qui a écrit « Dans les interstices, entre deux patients et entre deux boires à son fils ». Ce sont les liens entre ces rôles que Wanessa Yunsi explore dans son dernier opus, inspiré de son quotidien de médecin sans téléphone intelligent ni voiture. La mort y est un thème central. Les suicides et les maladies mortelles font inévitablement partie de sa vie de médecin psychiatre, tout comme d'autres formes de mort, les deuils qui nous habitent, les pertes non digérées. Dans ce contexte, la poète transforme la mort en mots. Je trouve dans cette idée peut-être pas la paix, mais une accalmie, écrit-elle. Les morts ont besoin de mots pour rester vivants. Sous sa plume sensible et imagée, des patients qui entendent des voix, qui ont des hallucinations visuelles, qui sont plongés dans leurs idées noires ou qui perdent leurs mots en raison de troubles cognitifs deviennent immortels, même s'ils demeurent anonymes. Elle estime que ces deux métiers posent la question de comment on marche vers la mort. La poésie regarde la mort en face, relève-t-elle dans son livre. De soignante à patiente. L'autrice explore ses propres failles, hypocondrie, phobie, désir de perfection, entre autres, et celle de ses collègues. Ils troquent ainsi leur position de soignant pour celle de patient. Ces rôles sont interchangeables. Ce qui fait que je suis sur ma chaise, c'est une série de hasards et de gênes. Je pourrais toujours être de l'autre côté, juge-t-elle. Dans ses récits-réflexions, truffés de citations littéraires et universitaires, Wanessa Yunsi se réfère entre autres à la médecin et professeure Rita Charon, mère de la médecine narrative, pour qui écouter un patient et lire un récit relève de compétences semblables. C'est un courant que j'ai découvert plus récemment et qui m'a permis de mettre des mots sur des intuitions ou des façons de faire que j'avais, rapporte-t-elle au Devoir. Elle aborde aussi son malaise avec un certain vocabulaire utilisé dans sa pratique, comme celui de se référer à des patients comme étant des cas. Quand on s'arrête au langage, on voit bien que ces mots-là réduisent la subjectivité d'une personne, explique-t-elle. Peut-être que la littérature, pour moi, est une façon d'utiliser les mots autrement et de voir leur charge symbolique que je ne vois pas au quotidien à l'hôpital. Confidentialité oblige, les histoires concernant des patients sont largement modifiées ou même inventées. Quand je parle de moi ou de collègues, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'on parle toujours de soi. Même quand je décris quelque chose d'externe, il y a toujours une partie de mon regard ou de ma vision, souligne-t-elle. Finalement, soigner, écrire, parle de notre humanité commune, qu'on peut admirer si on tend l'oreille, vers soi-même et vers les autres. C'était « Soigner, écrire, transformer la mort en mots », un texte de Roxane Liouzon, paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir.